Radio Spirale. En octobre 2011, Maud Lapierre recevait deux invités. L'écrivaine canadienne Johanna Skibbs-Rood pour une discussion autour de son livre « The Sentimentalist », ainsi que sa traductrice Hélène Rioux. L'entretien avait lieu dans les deux langues, en anglais et en français, une première sur Radio Spirale.
Donc, mon nom est Maud Lapierre et je vais animer la rencontre avec Johanna Skibbs-Rood et Hélène Rioux. Donc, on m'a demandé d'animer la rencontre spécifiquement parce qu'il fallait que ce soit bilingue, vu que Johanna préfère s'exprimer en anglais. Donc, Johanna Skibbs-Rood est l'auteur de deux recueils de poésie, Late Nights with Wild Cowboys et I Do Not Think That I Could Love a Human Being, ainsi que du roman The Sentimentalist. Et d'un livre de... Pardon, un livre de nouvelles, This Will Be Difficult to Explain and Other Stories. Donc, elle a remporté le prix Giller pour The Sentimentalist l'an passé. Hélène Rioux a traduit une quarantaine d'ouvrages d'auteurs canadiens et latino-américains, dont Les Sentimentalistes, paru chez XYZ. Elle a publié 7 romans de la poésie, des nouvelles et des récits. Elle a reçu le prix France-Québec et le prix Ringuette de l'Académie des lettres du Québec en 2008 pour Mercredi soir au bout du monde, le Grand prix littéraire du Journal de Montréal et le prix de la Société des écrivains canadiens pour Chambre avec baignoire en 1992. Donc, ce qu'on va faire, c'est que premièrement, Hélène Rioux va nous lire un extrait de la traduction française, donc « Les sentimentalistes », nous donner un peu l'impression du roman une fois traduit en français. Ensuite, on va parler un peu du roman, toutes les trois. Et finalement, Johanna va lire de son nouveau recueil de nouvelles. Donc, Hélène?
Merci. Alors, je vais lire un extrait vers la fin du roman. Donc le personnage principal qui se trouve au Vietnam pendant la guerre. Donc... On lui confie une autre mission et il se fait tirer dans la jambe. Il n'a même pas eu besoin de le faire lui-même, mais à présent, il le regrette. Il voudrait avoir tiré sa propre balle. Mais il pense qu'en tout cas, il doit être très puissant parce qu'il a souhaité très fort et c'est arrivé. Il reste 2 semaines à l'hôpital et ne pense pas. Ou bien il pense, mais il ne pense à rien. Il pense à comment tout est blanc. Les draps en particulier, il aime la blancheur des draps. Il passe aussi du temps à souhaiter être en train de mourir. Il pense qu'il est assez puissant, que s'il pense à mourir assez longtemps, il mourra peut-être aussi. Mais il ne meurt pas. Il continue plutôt à vivre. Il regarde ses draps blancs et il vit. Il continue pourtant de désirer. Il désire parce que si c'est sa mort, alors cette blancheur constitue sa fin. Il ne peut rien imaginer de plus joli que ça, une mort si blanche. C'est parce qu'on lui administre tellement de drogues, il le sait. Ils viennent lui en donner et il a hâte qu'ils viennent. Il aime la sensation que lui procurent ces drogues, c'est mieux que tout. Une sensation propre, une sensation grande ouverte, de n'importe quoi, comme ce qu'il éprouvait quand il était absent sans autorisation, sauf que cette fois, c'est beaucoup mieux, parce que maintenant, la sensation n'est plus poussée en avant, ne fait plus la navette, entre les circonstances du passé et celles du futur. Elle est, simplement, autonome et en dehors de tout. Et si elle avait une couleur, devinez quelle serait cette couleur. Puis, brusquement, un jour, ils disent qu'il est guéri, et après cela, ils le renvoient chez lui.
So I'm going to start with Johanna. So the Sentimentalist is based on the experiences of your father during the Vietnam War. So can you tell us in which way he shared those experiences with you? And then the process of fictionalizing those experiences while you were writing.
Sure. First of all, I just want to say thank you for having me, and also thank you for being generous and adapting to my preferences to speak in English. And also to be speaking with the two of you is really special this evening. So thanks. My father shared with me his stories of his experiences in Vietnam. Just a couple of months after I had begun working on a novel of a very different theme. And the novel was to do with my first character was Henry, he's still very much part of the sentimentalists. And Henry lives next to a lake, and underneath that lake is the submerged town, his original home. And during the 1950s, a hydroelectric dam came into the area, and the town had to be moved. But Henry is confronted ever after by the sort of physical presence of his history, of his past, because parts of that original town are still evident in his front yard. Basically, he looks out upon this lake where there's long poles that stick out of the water that mark the old foundations. And up until very recently, the story describes that there was a church steeple that still existed above the water, and only very, very recently had it at last crumbled. So this idea had come to me because I had worked in Maine leading canoe trips in the summer of 2003 on a lake very similar to this lake. And I was just so struck by that sort of physical presence of the past, and I started to think about it as a metaphor, and began working on this story that had to do with Henry and buried history, buried memory. That fall, when I had just moved to Montreal and was beginning my studies at Concordia University, where I did the MA in creative writing and English, I started working this story when my father began to tell me, really pretty much out of the blue, but it's always so interesting, and we're going to talk about this, no doubt, but the way that fact and fiction blur, and I really can't remember anymore the exact progression as to how he began to tell me his stories. But after 30 years of silence, never having spoken aloud of his experiences in the Vietnam War, specifically his witness of the murder of a civilian woman at the hands of his commanding officer, he began to tell me of this event and of the investigation that ensued, where he testified against his commanding officer. And it was this testimony, in fact, and his involvement in the process of processes of potential justice in this, I think that were in the end the most disturbing for my father, because in deciding to do what he thought was right, reporting this event, he became quite involved in a system that he realized that the line between right and wrong was very blurry indeed. And so I just saw immediately when my father shared these stories, just the connections between what I had already been working on in the original story, of Henry and his and the submerged history, submerged past, this story that, without my knowing it, had really been so much a part of my own history and that had shaped the life of my father.
Thank you. Did you think it was difficult for you to incorporate those memories, like your father's memories? And I mean, were you concerned with authenticity, with making sure that those the way in which you wrote really corresponded to your father's experiences? Because at the end of the novel, you do reproduce your father's testimony mm-hmm. in court.
I guess not. I really don't think that I was concerned with. I think because I had started to work in the medium of fiction, that was always how I engaged, even after I had this personal connection and really a sort of personal desire to want to do something valuable with these stories. I worked in fiction and writing fiction and poetry since the time I was, you know, very small. It was just very, very much what came most naturally to me when I was exploring issues and ideas of any sort. I considered that and that treatment of it quite valid, and I continue to. So in adapting it into this or bringing it into the fictional mode, I didn't feel a tremendous amount of anxiety about that shift, and that was no doubt helped by the fact that my father, you know, once he had sort of given me these stories, was very much, I mean, he knew that I was working on a novel, and he knew I was, you know, updating him, you know, more or less to the fact that they were more and more becoming the focus of this novel that I was writing. But he was very much sort of gave me, you know, the green light, or even, you know, less tangible than that. It was just sort of he had given these stories, and after that, I don't think he was really that interested in the form that they took. And I think, you know, that a lot of that comes down to the fact that he knew that I was a writer, a creative writer, and he trusted me through that, through that medium to create something that would be true to his experience, even if the details had less than factual or the historical accuracy. And I'll just say, and that's something that's interesting to me, and I continue to think about it, and the implications of it is that there's a historian that shows up in this book, in the latter part of the book, and this historian is based on a real historian who did, in fact, give me the testimony that then is included at the end of the book. And he has just written a book in 2009. He published a book. The subtitle of it is "What Really Happened in Vietnam," and he's fascinated and disturbed by the fact that, according to his historical research, a tremendous amount of false atrocity tales began to occur and continue to occur, but beginning in vast number during the Vietnam War, and so his project is to lay to rest, you know, these atrocity tales, and to finally sort of come out with the truth about these tales. Now, his account of what happened in the operation that I deal with in this book and that my father told me about hinges on my father's testimony. And the irony, the great irony to me is that he's hinging this historical account disproving the false atrocity tales that have been, I'm using quotations here, that have been told by other soldiers, by my father's testimony, which comes from a man who, and I adapt this and I use this in the book, told me that if you want an accurate idea of what Vietnam was like, you should watch Apocalypse Now. And just like the protagonist in this novel, when he told me that, I laughed. I thought he was joking, and I didn't quite understand at first what I think now he was actually communicating to me, that that regardless of historical data, sometimes, and this is what art, what fiction I think can do, is to convey a truth or be accurate in a way that in a way that historical documentation often cannot do.
Thank you. You've already spoken about this a little bit. So you mentioned the story about Henry, which is really the story that... Sorry, I have trouble with this microphone. So the story that you began with was very much the story of Henry and the flooding of Casablanca. But you also interweave, I think, several other narratives along with, so we've got Napoleon, which is the protagonist's father and his experiences in Vietnam. So Owen and Henry and the flooding of Casablanca. And we've got a contemporary narrative strand. So the narrator and her sister will relocate Napoleon to Casablanca. The narrator talks a bit about her failed relationship and about her sister's failed marriage. And also the narrator talks about her memories of her childhood. So we've got quite a few different narratives that are all interwoven throughout the novel. And so I'm curious, so how do these narratives work together? And is there one, this is, you might not want to answer this one, but is there one which takes a priority or prevalence over the others, one that is more important?
Yes, there's a number of intersecting narratives. But I think maybe what I'll say in answer is just that I started with a massive far more stories than I needed, and what the process of editing for me was to go through and to each time I read it to say, okay, you know, what is this story really about? What is the story really about? And each time I, you know, significantly cut the manuscript down. And I think that during that process, what happened was that I trimmed away the sort of the trappings of this protagonist's life. So she actually used to have a lot more context. She had a boyfriend. She had a job. She had, concerns other than Casablanca and Henry and Napoleon, which then, you know, become the bulk of the story. So by doing that, I think what I wanted to do, so I created this impetus for her to leave her old life behind, and she's in a state of shock. She's leaving a ruined relationship, and she flees to Casablanca. And I wanted to open her up in that way, to be in a state of openness that I think can come from such a drastic shift, and from being, you know, taken outside of your context like that. And that allowed her, I think, to be open to or sort of act as a conduit for the stories of Henry and of Napoleon. I was sort of looking for her to be to act as that, and sort of to, I almost think of it as, you know, I guess when we're talking about the lake metaphor, but just continuing to sort of dive deeper and deeper into the network of stories that created her life, and to dig deeper and deeper for them there.
And so is there one story that is more important for you than the others?
You really want me to answer that question?
No, I don't want you to answer. You don't have to.
No. I don't think so. I would hope that one is not. And I also think that maybe it's interesting that... And I mean, this is just the beauty in my mind of fiction, is that everybody that I've talked to will respond to different elements of the story, and that and I hope that they all do feel connected and integral to one another, just as in life. I mean, we can't really separate all the different strands and histories that are a part of our own lives. So I hope that, you know, some of that is mirrored in the stories, that, you know, when I talk to people, I've heard a lot of people, especially in Canada, will identify with the Eastern Ontario townships, the lost villages, and that will feel to them very certainly as the most important element of the story. But, you know, touring and in the U.S. a little bit in the spring, you know, it was certainly the character of Napoleon, and I got people coming up to me saying, that's my brother, my uncle, my father, you know, whatever it may be. So I think that, you know, people are going to find or hopefully what resonates with them. And I, that's what I wanted.
I guess the only reason why I asked that is, every time I've seen you introduce this book quite a few times since, so I was at the launch and at all those other events that followed in Montreal, so, but every time it was always the Vietnam War narrative which tended to take priority over the other section, so I guess it has to do with conflict and tension and So people were, yeah. really wanted to
well,
pay attention
I think, to yeah, you are right. I mean, I think that for me, and even in the fact that, I mean, when I was talking about, you know, digging or diving deeper and deeper, is that at the end, we come to that, right? Like the you know, in even in the epilogue with the revelation of the testimony that the father gives, that is where the narrative to a certain extent is pointing. And so in that regard, I would say that that is the focus.
And so,
de lectrice ou de traductrice, moi, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a avant tout frappé dans les sentimentalistes, c'est la relation père-fille. Pour moi, c'était ça qui était le cœur de l'histoire, encore plus que, bon, oui, l'histoire de Henry, oui, l'histoire de, bon, de la guerre du Vietnam, de, bon, de la mémoire, tous ces thèmes-là étaient très, très importants, mais la relation entre la narratrice et son père, pour moi, était primordiale dans ces livres. Ça tournait autour de ça parce que j'avais jamais lu un livre où on en parlait de cette façon-là. Souvent, quand on parle de la relation père-fille, bon, soit il y a l'abus, ou soit il y a l'amour, ou bon, tout ça. Tandis que là, c'était totalement autre chose. Oui, il y a l'amour. En même temps, je trouvais ça tellement beau parce que c'est pas un père nécessairement aimable. Il était très absent. C'est un personnage qu'on pourrait trouver pratiquement antipathique, puis on se prend d'amour pour lui, on se met à l'aimer autant que la narratrice l'aime. Pourtant, elle a un regard absolument sans complaisance devant son père. Elle nous le montre tel qu'il est, parfois insupportable, quand il n'arrête pas de fumer ses cigarettes dans l'habitacle de l'auto avec les fenêtres fermées, ou bon, quand il recommence à boire et tout ça. Et pourtant, il n'y a jamais un jugement... elle juge jamais. Ça, je trouvais ça vraiment très beau. Puis pour moi, c'était un livre qui portait sur cette relation-là. D'abord, moi, c'est ça qui m'a frappée. Mais comme disait Johanna, chaque personne peut trouver, bon, que le plus important, c'est la guerre du Vietnam. Le plus important, c'est la ville, le village englouti. Pour moi, bon, il y avait aussi ça qui était...
I agree with you. Yeah. Yeah.
Donc, vous m'avez anticipé un peu parce que c'était une des questions que j'allais vous poser bientôt, mais c'est pas grave. Donc, so my last question, so we'll come back to you, Johanna, but we'll give you a little break after this last question. So, I have a question. This is for me, obviously, as an academic. I think this is a very academic question, so I apologize to all of you. But there's one of the central tensions in this novel for me is about... So memory and memories, which I would distinguish in as much as, so the narrator is always reminiscing, but at the same time, we're told repeatedly throughout, and this is the discovery that the protagonist makes, is that memory is unreliable and cannot be recovered. The traces are very fragile, etc. So I'm really interested in this tension, and I was wondering if you could speak a bit about this. So between her memories and then this unreliability of memory.
Well, yeah, I think that so her memories of her childhood home in Casablanca form very much the reason why she returns there when she's had this sort of catastrophe in her personal life, that she doesn't know why, she's uprooted from her life, and she really, you know, has no idea what's drawing her there, but there she is, she's back in Casablanca, and that creates the context for where, you know, she reconnects with her father and the two men, Henry and Napoleon, stories get told. But I think that, you know, I set that up, or I tried to set that up, her, you know, instinctive draw back to Casablanca as, you know, to a certain extent, you know, a fictional narrative that she's told herself, but that nonetheless constitutes her framework and her reality. And then as soon as she, you know, she ends up in Casablanca and finds out, you know, that she doesn't have any of that immediate comfort, that immediate, her childhood is gone, those romanticized notions of Casablanca are absolutely gone for her. And so I hope that sort of sets up the sort of exploration of memory and its unreliability later in the text.
Thank you. Donc, Hélène Rieu, j'ai quelques questions à vous poser. Donc le titre qu'on a trouvé pour la rencontre, c'était « Expérience en traduction mm-hmm. ». Donc, ce que je me demandais vraiment, c'était, premièrement, qu'est-ce qui vous a attiré, dont vous avez parlé? Vous venez juste de parler de la relation père-fille, mais mm-hmm. peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous ont attiré à vouloir comme traduire ce roman.
Oui, c'est sûr que quand j'ai lu le roman, j'étais absolument touchée. C'est vrai que j'étais aussi touchée par un roman, par celui-là, à la fois par les thèmes qui étaient abordés, c'est-à-dire comme je viens de dire, la relation père-fille, la façon dont c'était traité, c'était pas absolument pas, ça n'a rien à voir avec la relation que j'ai eue avec mon père, c'est complètement autre chose. Donc, c'était pas personnel, c'était peut-être la façon originale, et je trouvais tellement sincère dont on en parlait, sans complaisance aussi. Mais aussi, évidemment, le thème de la mémoire, puis la futilité d'essayer de trouver la vérité. La recherche de la vérité est une recherche absolument vaine. Je me suis rendu compte, parce que je m'intéresse beaucoup, je lis toujours beaucoup des livres d'histoire, puis je me rends toujours compte que la vérité est quelque chose d'absolument évanescent, de fuyant. Il y a tellement de vérités, il n'y a jamais une seule vérité. Il y a la vérité de chacun, puis quand tu lis sur l'histoire, tu te rends compte que le même événement est interprété toujours de façon complètement différente. Puis ça, je trouvais que les sentimentalistes le rendaient d'une façon tout à fait originale et magistrale. Je trouvais que ça correspondait à quelque chose qui me touchait aussi. Bon, toute la métaphore du village englouti, avec cette métaphore-là par rapport à la mémoire. Alors, il y avait des thèmes qui me touchaient beaucoup. Il y avait aussi, bien sûr, l'écriture du livre qui m'avait... au départ, je dois dire que là, c'est ça, au départ, ça m'avait semblé très facile. Je me suis dit, bon, voilà un livre facile à traduire. Je ne m'étais pas posé une seule question pendant que je le lisais. Ça coulait tellement pour moi... Je comprenais tout. Je comprenais exactement ce qui était dit. Je comprenais toutes les émotions. Quand je suis arrivée pour les rendre en français, là, c'est là que le bas a blessé. Je me suis rendu compte que c'était vraiment très difficile de rendre cette musique. La musique de Johanna est très particulière. Alors là, essayer de rendre cette musique-là en français, c'était une tâche... j'espère y être arrivée parce que je l'ai tellement aimée. C'est comme interpréter, un compositeur qu'on admire tellement, puis tout d'un coup essayer de jouer sa musique, puis tu te demandes si tu lui rends justice. Donc, c'est ça, ça semble facile parce qu'il n'y a aucun mot difficile. Tous les mots sont très simples, la langue est très poétique, mais il y a une écriture qui s'en va comme en spirale. Souvent, je trouvais ça, là, je trouvais qu'on entrait, puis là, bon, on continue, puis à la fin, là, c'est où suis-je? Où est le sujet? En anglais, c'était simple, mais en français, ça ne se rend pas aussi facilement. Parce qu'en français, ça prend beaucoup de que, puis de... Donc, des fois, j'ai été obligée de couper des phrases, de mettre un point, de mettre une virgule. En anglais, on utilise beaucoup les ing. En français, non, on ne peut pas mettre toujours des ant, des participes présents. En français, c'est pas comme en anglais. On ne peut pas en mettre autant. Ça sonne pas bien, c'est pas la pensée française et pas la pensée anglaise, c'est complètement une pensée différente. Donc, il fallait essayer de rendre ça, d'être fidèle à ce qui était dit et fidèle à sa musique tout en étant fidèle au français. Donc, c'était le défi que j'avais à relever dans cette traduction.
Oui, c'était en fait aussi une autre question que j'avais parce que à chaque fois qu'on parlait, dans mes cours de français à l'époque, à chaque fois qu'on parlait de traduction, c'était toujours bon, traduire c'est trahir.
Oui,
c'est toujours,
traduire,
ça revient
trahir,
toujours.
Oui.
Comme quoi la traduction devient une activité très, très suspecte.
Mm-hmm.
Donc, je me demandais aussi par rapport à ça, parce que en regardant votre biographie, je me suis rendu compte que vous êtes une personne probablement très, très créative parce que vous ne faites pas juste de la traduction,
non.
Mais vous avez aussi vos propres œuvres.
C'est-à-dire que pour moi, je vais vous laisser finir la question.
Ma question, c'est comment réconcilier votre style créatif avec les demandes d'une traduction fidèle?
Bon, alors je pourrais répondre en deux parties. Bon, premièrement, pour moi, tout est traduction. C'est-à-dire que quand j'écris, je me traduis. J'ai toujours considéré que écrire, c'est me traduire. Je pense que moi, je le vois faire. Oui, oui. Donc, tout pour moi est toujours traduction, parce qu'il y a ce qui est à l'intérieur de nous, les émotions, l'abstrait, tout ce qui est en nous, nos pensées, tout qu'on traduit en mots. Donc, quand on écrit, on fait œuvre de traduction, on traduit ses propres pensées. Alors là, c'est évident que quand on doit traduire la pensée de quelqu'un d'autre, bon là, c'est un autre aspect de la traduction, mais pour moi, on est pratiquement dans le même processus. Et puis, ce que j'aime, la plupart du temps, quand je traduis, c'est de traduire quelqu'un qui n'écrit pas comme moi. Parce que justement, j'aime pas mêler mon écriture, c'est mon écriture, puis l'écriture de l'autre. Là, c'est comme, pour moi, je l'associe souvent à la musique. Pour moi, c'est interpréter comme interpréter une musique, ou c'est comme interpréter un rôle. C'est comme si tout d'un coup, je deviens l'auteur que je traduis. Je dois entrer dans cet auteur-là, puis là, essayer de... Comme un comédien, quand il joue un rôle, il doit, bon, tout d'un coup, tu dois devenir Lady Macbeth, ou tu dois devenir Blanche Dubois, ou bon, tu deviens un personnage, c'est pas toi. Alors, quand je traduis un auteur, c'est tout d'un coup entrer dans l'auteur. Puis pour moi, c'est une relation très, très intime. Des fois, bon, là, je suis entrée dans l'être de Johanna, mais des fois, je peux j'entre dans l'être d'un homme. Alors là, c'est comme tout d'un coup complètement différent. C'est, je dois entrer dans cette pensée-là, puis bon, c'est ça. J'aime... Évidemment, je pense que peut-être je pourrais pas traduire quelqu'un qui serait complètement à l'opposé de moi, ou quelqu'un qui aurait des pensées ou des idées sur la vie tellement différentes des miennes, là, à un point que j'arriverais pas peut-être à le rendre, mais j'aime quand l'écriture est une autre écriture. Comme, par exemple, moi, j'écris toujours au présent quand j'écris. Puis quand je traduis, la plupart du temps, c'est au passé. Donc là, c'est un plaisir absolu pour moi d'utiliser des pensées simples et tout que j'utilise pas dans mon écriture, parce que c'est pas moi. Je ne suis pas capable d'écrire au passé simple mes propres histoires. Elles sont au présent toujours. Et tandis que là, tout d'un coup, je traduis quelqu'un, bon, je peux utiliser aussi des mots, des fois des mots qui n'entrent pas dans mon écriture à moi, des mots qui ne m'appartiennent pas, même si je les connais, tout, mais ils ne sont pas les miens. Puis tout d'un coup, ils sont les mots que je peux utiliser parce qu'ils sont les mots de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est... Bon, alors là, c'est sûr que, par contre, dans les thèmes qui étaient abordés dans les sentimentalistes, notamment la mémoire, puis c'est ça, je disais, la futilité de la recherche de la vérité, ça, c'était très proche de moi. Fait que ça m'a beaucoup touchée. Puis c'était, bon, c'est une des rares fois où j'ai traduit quelqu'un qui abordait un peu les mêmes thèmes que moi dans son écriture.
Merci. Donc, vous avez déjà répondu à ma question par rapport au style littéraire. Donc, je vais revenir sur Johanna, juste pour vous donner une idée des longues phrases de Johanna. Donc, ça vient d'un moment dans le livre où le personnage de Henry met des punaises dans une carte du monde quand lui et sa famille déménagent. Donc, à la fin, quand il déménage de façon permanente à Casablanca, il enlève toutes les punaises. Donc, il reste des trous dans la carte, mais il y a seulement une punaise. Donc, on voit où il était et où il est maintenant. Donc, voici la phrase. Also, and this he took with him, there was the small dark point in the map where the page had been pierced, so that when Henry looked at the map of the world in Ontario, where finally they remained, he saw not only where they were, clinging precariously to the underside of the Canadian shield, but also where they were no longer. Donc la phrase fait à peu près 9 lignes. So Johanna, my question will be, so I don't particularly find your writing style complex, but this is a criticism that I have read, just as you were mentioning, that you have read in many reviews. So those are actually compound sentences that make perfect grammatical sense in English. They're not mistakes, but they do require that the reader proceeds slowly so that you can keep track of the subject and what is going on where.
So I was wondering for you, so how did, why did you choose this specific style? So in English, a lot of people will write using shorter sentences, but you chose long sentences. So my question will be why? And also, how does it contribute to the narrative as far as you're concerned?
I have a trouble with this question because on the one hand, I want to say that that I didn't choose, but I did, because I chose everything very specifically. And I went over it many, many times. And so I did choose, but at the same time, what I chose to do was, and I find that it's very hard to articulate this, you were just talking about the music, and I really do feel to a certain extent that writing for me is like there's an internal rhythm to the sentences or to what I want to convey that I can't really articulate to you except by the way that they ended up on the page. And so when I'm writing, it's that I'm sort of paying attention to is that rhythm, and that rhythm is for me not about the style or the sentence structure, but actually about, for me, you know, trying to be as straightforward as possible in the way that I'm conveying the ideas or the emotions or the narrative. You know, but sometimes, you know, ideas and images and scenarios are complex, and so then they, for me, you know, require these more complex sentences. But for me, it's not about. I really think that I can say truthfully, it's not about so much the style, but about something internal to what I'm trying to convey, that becomes the most straightforward way that I can get the ideas across.
At the same time, I find your writing style mimics in a lot of ways the way in which we actually speak. Because as we're talking, there's not necessarily going to be a precise, you know, subject, verb, object. It's often, you know, these long sentences that might not make a lot of sense. If you were to write a recorded conversation like the one we're having right now, there would probably not be a lot of periods and commas.
Can I tell you a funny story that just happened to me last night? I was in Ottawa, and this woman came up to me and she said, "Your writing reminds me a lot of my son Prue." And I couldn't understand what she said. And I said, she says, and then finally I hear, "Marcel Proust. Are you familiar with him?" And I was like, "Oh yes, that one." And but I just brought it up really because to me, reading, and I as I did one winter, I just completely immersed myself in Proust, and I remember opening up Swan's Way in translation, but nonetheless just falling into those sentences, and it just felt like the most natural thing in the world. It felt like I was dreaming, or like there was waves of language coming over me, and so obviously I was absolutely thrilled last night when this woman, you know, brought this up as a comparison, because, you know, if we are going to talk about style, you know, if I could write any way, it would be in waves, you know, and I guess that goes back to what I was talking about of just the rhythm and just an element to the language that pays attention to itself as language, but nonetheless does so in a way that doesn't obscure the meaning, but instead makes that, you know, part of the experience of the meaning. If that makes sense.
Chose de proustien dans cette écriture, ça m'a fait penser aussi à Marcel Proust, les longues phrases qui, justement, ce que je disais, le spiraler où tu commences, puis tu t'en vas d'une chose à l'autre, puis des fois d'un paragraphe à l'autre, la phrase commence, et puis après ça, le paragraphe suivant, la phrase se continue, puis dans le troisième paragraphe, ça se continue encore, puis oui, c'était quelque chose de... J'ai pensé à Proust aussi. Je me disais, bon, alors je ne peux pas écrire comme Proust parce que c'est... Il faut que je l'écrive autrement, parce qu'en même temps, c'est une écriture qui est très moderne. C'est pas une écriture en anglais, enfin, c'est pas une écriture. Ça fait penser à Proust à cause de la longueur des phrases, mais pas le propos ou la façon d'écrire. Ça pouvait pas s'écrire comme Marcel Proust écrit avec aussi les imparfaits du subjonctif. Et puis, non, c'était plus moderne. C'est pour ça que je pouvais, des fois, j'étais obligée de couper, même si Proust aurait continué pendant des fois plus que 9 lignes, des fois.
Donc, vous avez parlé justement de la différence entre la syntaxe francophone, la syntaxe anglophone, mm-hmm. et comment ça vous a demandé de faire quelques sacrifices, j'imagine. Mais est-ce que aussi la traduction du texte, qu'est-ce que ça vous a obligé à adapter certaines choses, comme on parlait avant?
Ah oui, bon, oui, disons que c'est sûr que, bon, tout l'aspect poétique, non, mais quand on est dans une langue crue, comme par exemple quand c'est les soldats au Vietnam, bon, c'est des soldats américains, c'est ce que je me disais, c'est des soldats américains, donc ils disent « fuck »,« fucking », et puis… Mais en français, on dit quoi? Si on est des soldats français, on va dire « bordel de merde », si on est des soldats québécois, on va dire « crise de tabarnak », mais là, c'est des soldats américains. Donc moi, je pouvais pas leur… pour moi, c'était impossible de leur faire parler en québécois, parce que là, pour moi, c'était un peu comme… trahir, ils ne sont pas québécois. Donc, puis j'ai toujours eu l'impression, moi, que le tabou, le fuck, le tabou qui est exprimé dans ça, c'est un tabou sexuel, tandis que le Christ, tabarnak, c'est un tabou religieux. Donc, pour moi, c'est deux mondes différents. Tu ne peux pas les traduire l'un par l'autre. Ou sinon, il faut que tout d'un coup, tes soldats deviennent des soldats québécois au Vietnam. Mais ce n'est pas des soldats québécois, c'est des soldats américains. Donc là, ça, c'est toujours un problème que j'ai quand il y a la langue vernaculaire. Comment la rendre? Je sais que des fois, je lis des livres traduits, puis on traduit les fucks et les dames, puis tout ça par Christ, tabernacle. Puis pour moi, ça me choque toujours. Je considère que c'est pas ça. Ça, c'est, si je me dis, on n'est pas à Drummondville, on n'est pas, bon, c'est pas là, on n'est pas en train de manger de la poutine au coin de la rue, là. C'est d'autres personnages. Donc, moi, quand j'écris, mes personnages peuvent dire Christ, tabernacle, mes personnages quand ils sont québécois. Mais quand je traduis, là, ça m'obligeait à essayer de faire des compromis. C'est pas un mot que j'aime particulièrement, mais pas les rendre français de France ni québécois, donc essayer d'être entre les deux puis de rendre à peu près l'idée de leur état d'esprit. Donc j'utilisais des bordels ou merde, maudit, donc des mots peut-être un peu plus neutres que carrément argot français. Je considère qu'on peut pas le traduire, pour moi, des auteurs québécois ou américains en argot français. J'ai horreur de ça. Puis bon, en québécois, je trouve que souvent, ça rend pas parce que ça rend pas, dans les cas de fuck, ça rend pas le tabou. Donc déjà, alors les gens qui me disent « Pourquoi tu laisses pas fuck? » Oui, parce que c'est sûr qu'au Québec, on va dire « fuck ». Mais on va pas dire « fucking », par contre. On va pas dire « fucked up ». On le dit un peu, mais on va dire surtout « fuck ». Mais là, c'est qu'il y en avait beaucoup. Je pouvais pas en laisser. Si j'en avais eu un ou deux, bon, là, j'aurais pu le laisser en italique, là, comme ça. Mais bon, il y en avait vraiment beaucoup, parce que tous ces soldats-là, quand ils se parlent, ils se parlent en une langue très crue. Donc là, il fallait essayer de la rendre. Ça, c'était une des difficultés de la traduction. J'ai essayé de rendre, j'espère avoir réussi.
Est-ce que les références au film de Casablanca vous a posé problème aussi?
Là, j'ai regardé le film 3-4 fois. J'étais obligée de le regarder. Puis là, c'est que j'essayais de trouver toutes les répliques en français. Parce que, bon, dans ce livre, bon, le personnage du père connaît, bon, en fait, la narratrice aussi, connaît Casablanca par cœur, puis il se parle en réplique de Casablanca. Donc, il fallait, là, j'avais écrit à Johanna pour lui demander où se trouvait-elle dans le... Bien, il y en avait tellement, puis elle m'a dit, bon, il y en a partout, on ne peut pas me dire exactement. Donc, j'ai regardé le film une première fois, j'avais tout noté. Là, j'ai regardé le film une première fois, puis j'en ai trouvé quelques-unes, mais il y en a que je n'ai pas trouvé du premier coup. Il me restait peut-être 7-8 citations, je ne les ai pas, absolument pas trouvées, parce que des fois, c'est très différent en français. Alors, c'est vraiment... Alors là, je me suis dit, bon, allez, le lendemain, j'ai réécouté le film. Là, j'en ai trouvé peut-être une ou deux de plus. Il m'en restait encore. J'étais obligée de le réécouter. J'ai apporté la campagne. Je l'ai écouté encore. Puis là, je me disais, je pense qu'il y en a une ou deux que j'ai jamais trouvées. Alors là, je me disais, bon, là, la seule chose qu'il faudrait que je fasse, ça serait vraiment là, l'écouter en anglais. Puis là, noter vraiment où c'est dit. Puis là, le réécouter, mais j'en pouvais plus d'écouter Casablanca. Je me suis dit, bon, ça va comme ça. Là, disons que j'ai l'idée de la chose là, qu'on parle dans les répliques de Casablanca. Parce que souvent, ce qui arrive en anglais, c'est que tu as, mettons, des « you ». Bon, en français, tu peux avoir « vous » ou tout, ça dépend. Parce que des fois, le personnage, Humphrey Bogart, s'il parle avec, mettons, le commissaire de police, ça va être « vous ». Mais s'il parle à Ingrid Bergman, ça va être « tu ». Mais moi, je ne savais pas à qui il parlait. Donc là, je ne savais pas s'il fallait traduire « vous » ou « tu ». Là, il fallait que je sache à qui il parle, mais ce n'était pas dit dans le livre. Puis bon, donc je cherchais, en écoutant très attentivement, à retrouver « est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? » Puis bon, là, je notais des choses, puis bon, je revenais en arrière. Puis bon, en tout cas, ça a été une des difficultés. Oui.
So to conclude, I just have a final question for Johanna about your symbols. So you overlap several stories, as we discussed, but you also overlap several symbols. So we've got the flooded town that we've talked about. There's the boat that Napoleon has been working on. There's Napoleon's trailer in Fargo. There's the map from which I read just a moment ago. Then there's a little stone that the little girls find, and as soon as they touch it, it disintegrates. So all of this, which points to, I guess, some of your main themes about memory. And also you mentioned ghosts and haunting. So those things keep coming back in your narrative. So I was wondering, so first of all, like how, you know, it's rare to read a book where you find so many symbols. So obviously this was my second read, so I knew what I was looking for. But so how do these symbols operate for you, and why did you overlap them in that way?
Well, first of all, I guess I didn't, consciously, I wasn't thinking of them as symbols. I was thinking of them as, you know, elements of the story that, of course, were operating for me, you know, importantly in the senses that you speak of. But, you know, primarily for me, what I was working with in terms of, you know, things that I was consciously having to balance in terms of, you know, their symbolic overtone was the, you know, the lake that I've already spoken of was really the sort of start for this, because I began immediately to think of it in terms of a metaphor. So there was the lake, and the father. It begins with the father's house. My father's house was a carpenter's house, always a work in progress. So this idea of you know, a number of levels, and a lot of the things that you mentioned sort of tie into that, of things being a work in progress, of that sort of transient nature of the, you know, the efforts that we make in many forms. And the boat was the most conscious of all, in the sense that I came up with that about midway through, you know, my own progress on the book, in that, you know, I had written my first draft as my dissertation for MA at Concordia, and then I let it sit for a couple of years. I didn't know quite what to do with it. And what I was missing, I realized, and it's interesting because actually I had a friend read it who's a children's author and a screenwriter, and so he read the book, and at this stage, and you know, I asked him for advice, and he says, he was like, well, there's this thing called an arc. Do you know about this? Like a pyramid, you know, he draw it out, and was like, and basically, you know, because he was very invested himself in, you know, a very, you know, a traditional arced storyline for the writing that he does, and although I didn't take almost any of his advice. It was very helpful to talk to him about, and just to have again reprinted in my mind, okay, well, I'm actually going to ignore a lot of these suggestions, but still at the back, you know, I have this framework, as, you know, most stories actually do, you know, that we tell each other, you know, even anecdotes that we share, whatever, have this arc. And what I needed was something to, you know, to connect through, something that all the stories would adhere to, in a sense. And that's when I introduced the boat, because I saw that it connected to the landscape of the lake and the water, and used and played upon, you know, that that image and what I was going for there, as well as, of course, with the idea of the work in progress and sort of failed efforts and pursuits that the father you know, continually embarks upon. But then also, of course, the positive side of that, which is the potential that the boat then comes to represent. So the boat, I think, was the most conscious, you know, effort on my part to sort of use symbol in the book.
Thank you. Donc pour terminer, une question pour vous deux. Donc pouvez-vous nous parler de vos projets futurs, so upcoming projects?
C'est-à-dire que j'ai une suite de livres que j'ai écrit, dont le dernier né, le bébé, vient juste de naître, presque en même temps que celui de Johanna, qui s'appelle Nuit blanche et jour de gloire. C'est le troisième de la série Fragments du monde. Et là, bon, le projet, c'est d'écrire le quatrième. Alors, c'est chaque livre, c'est le changement de saison. Donc, mercredi soir, c'était mercredi au bout du monde, c'était le solstice d'hiver. Après, Âmes sans peine au paradis perdu, c'était l'équinoxe de printemps. Nuit blanche, c'est solstice d'été. Là, je suis à l'automne, ça tombe bien. Puis là, je vais commencer le prochain, dès que...
And I'm working on a second novel. I'm right in the midst of it right now, and sort of in the same stages that I was talking to you about in Sentimentalist, when I was just a lot of material and I didn't know what to do with it. So that's where I am. But I also am working to complete my dissertation in English literature at the Université de Montréal.
Thanks. So, Johanna, would you like to read from...
Do we have time?
Do we have time?
Yeah. Okay. I'll just conclude with a selection from this new book, which just came out in English, with Hamish Hamilton, Canada, in the end of September. And I thought it would be appropriate to read you a passage from a story called French Lessons. And it begins with a quote from Barthes. Thereupon the signifier, the third meaning, is not filled. It keeps in a permanent state of depletion. It maintains a state of perpetual erethism, desire not finding issue in that spasm of the signified that normally causes the subject to sink voluptuously back into the peace of nominations. So this character in the novel, actually there's four stories that are connected by a network of friends, American expatriates who are living in Paris. And in this story, Martha has been living with Madame Bernard for several months, and her French is just deplorable. And she cannot understand anything that this woman is saying to her, and it results in numerous misunderstandings, all of which actually were borrowed from, not my own experience, although they could have been, but from a friend of mine who did a language program in Chicoutimi and had similar experiences. And I'm going to relate the final misunderstanding to you now. It was not until the third month of her stay, long after the incident with the fruit, you'll have to read it to find out about that she realized suddenly, and with what seemed like no progression toward it, that she understood. She hardly needed to concentrate anymore. She was relieved, but at the same time, and this she never would have anticipated, a little disappointed too. It was a different sort of Paris that she lived in when she'd understood so little. It had been like an object, something she could put on or examine or hold. Only once that was gone did she realize how easy it was, even in Paris, to slip into the ordinary, to begin the inevitable depreciation of things. She would long remember the last great misunderstanding, however. It took place during her sixth week in the apartment when Madame told Martha about the death of her son. The details would always remain distorted and vague, just in the way that Martha had first received them. She found herself afterward wondering about him not infrequently, sometimes horrified by small things, a desk, a globe, a knife, fearing that they might have come into play somehow in a story she had so thoroughly failed to understand. Later, Martha would tell Ginny of the event. "I thought I had it right. You know, you can't just nod and smile with Madame like with everyone else. I had to figure it out, you see, where all the funny bits were, and laugh. And then, when the story got sad, I had to know that it did, and I did. I said ah and oh in all the right places, I'm sure of it. But," and here Martha rang her hand down flat on the table, making Ginny, who for some time already had sensed the punchline, smile. "I could have sworn," Martha said, "that we were well out of the sad bits." She paused. "It's true. All stories have got to have both, but it just isn't fair when you aren't clear about which one is which." "And so," Ginny said, still grinning, "what happened?" "I laughed," Martha said, "right there at the saddest part of the story." This was just the punchline that Ginny had expected, and she herself laughed uproariously, which pleased Martha, because she and Ginny had only just met, and it's nice to make someone you've just met laugh. Also, this was a few weeks after she'd first met Charlie, and she would have been hard-pressed then to believe that there was really anything sad about life after all. Thank you.
So, je pense qu'on a le temps pour les questions. Donc, si vous avez une question, venez près du micro.
Ah. Ce qui m'intéresse, c'est la relation personnelle entre le traducteur et l'auteur. Alors, vous avez fait allusion que vous aviez appelé lorsque vous n'étiez pas certain pour Casablanca, mais sinon, est-ce que vous préférez être loin de l'auteur et proche du livre ou une combinaison des deux?
La plupart du temps, je travaille seul parce que les auteurs que je traduis ne parlent pas français. Alors là, j'avais entendu dire que Johanna parlait français, je me suis dit, ah bon, enfin, je vais pouvoir, bon... Ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle ait le temps de lire le manuscrit avant que je l'envoie, parce que j'avais, bon, je trouvais que ça avait été un livre difficile à traduire, donc j'aurais voulu avoir son opinion pour voir, parce que souvent, c'est parce que c'est une écriture très poétique, je me disais, est-ce que j'ai tout à fait saisi, mais bon, elle n'a pas eu le temps. Quand on gagne le prix Giller, on a moins de temps. C'est ça qui est le problème quand on gagne un prix important. Mais bon, le seul auteur avec qui j'ai travaillé, ça fait très longtemps, c'était Yann Martel, parce qu'il parlait français. Donc, on avait beaucoup travaillé ensemble sur le manuscrit. Mais après, tous les autres auteurs que j'ai traduits, je leur demande tout le temps, est-ce que vous voulez lire le manuscrit? Ils me répondent, sorry, I don't speak French. So, ils me disent ça gentiment, I'm so sorry, I would like to, but non. Bon, donc souvent, ce que je peux faire, c'est que je peux poser des questions, donc en anglais, quand il y a quelque chose dont je suis pas sûre, mais je peux pas avoir vraiment le feedback, là, si on veut, de l'auteur. Bon, alors, je me suis habituée à travailler de cette façon-là avec les auteurs que je traduis. Par contre, je travaille beaucoup avec mon traducteur qui est ici ce soir. Donc, c'est parce que c'est quelque chose de vraiment... Je travaille aussi avec mon traducteur en espagnol. C'est quelque chose qui est très, je trouve, enrichissant de pouvoir travailler, de pouvoir collaborer, traducteur et auteur. C'est pour ça que je déplore souvent de ne pas pouvoir le faire avec les auteurs que je traduis parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils ne parlent pas le français. Donc, ils me disent toujours très gentiment, j'ai très confiance en toi. Bon, je me dis, Oui, mais l'erreur est humaine. Je suis pas infaillible. Je peux aussi avoir mal interprété des fois un mot parce que je peux surtout comme c'est ça quand c'est une écriture poétique, une image, je peux avoir bon justement entre autres le seal.
Yes.
Bon, alors il y avait bon, ça peut vouloir dire saut ou ça peut vouloir dire fuck, mais dans la phrase qui était dans le livre, j'arrivais ni à comprendre le sens avec saut ni avec fuck. Je veux dire, je comprenais absolument pas ni un ni l'autre. Là, je tournais la phrase parce qu'il était question d'un homme qui se noie, voit s'éloigner le dernier seal. Là, je me disais, bon, il est dans l'eau, il peut voir un fuck. Oui, ou un saut, là, je me disais, qu'est-ce qu'un saut fait? Bon, alors je me demandais ce qui se passait là. Alors là, heureusement, j'ai eu la réponse, c'était un saut, c'était pas un fuck. Mais c'était, bon, parce que justement, là, c'était une métaphore, c'était une image qui pouvait se voir dans les deux sens. Puis bon, Joanna m'a dit définitivement... pas un fuck. Mais moi, je cherchais, je ne le voyais pas plus. Puis là, elle m'a expliqué ce qu'elle voulait dire par cette image de seau qui s'éloignait dans l'eau, de seal. Je voyais, de toute façon, c'était très poétique aussi. Je voyais le dernier fuck, être englouti. Je me disais, c'est possible. It was possible, wasn't it? Mais bon, justement, parce que c'est ça, on traduit, mais on peut complètement, du coup, partir dans une mauvaise direction, puis mal comprendre une image. Puis c'est ça, je dis, on n'est pas infaillible. C'est pour ça que la collaboration est, bon, est importante. Ça arrive très souvent. Je sais que moi, dans un livre que j'avais écrit, je parlais des chevaux de soie. Et puis, du coup, moi, je le lis, c'était en espagnol, puis je vois « caballos de seda ». Puis là, c'était « cabellos ». Moi, je parlais de « cheveux ». Puis là, je vois « caballos », en fait, « chevaux ». Ben, lui, il avait lu « chevaux de soie », puis moi, je parlais des « cheveux de soie ». Puis là, je me disais « qu'est-ce que c'est que ça, les « caballos de seda », comme je n'ai jamais parlé de « chevaux ». Donc, j'ai écrit au traducteur pour me dire, il m'avait envoyé le manuscrit. Bon, là, j'ai dit, mais... Parce que c'est ça, souvent, c'est juste où on lit mal une lettre, où on passe un mot, où on voit une autre image que celle qui est... On a beau être très attentif, très vigilant, on peut faire des erreurs. Donc, voilà, j'espère que si je traduis le prochain, que on pourra collaborer.
C'est vrai que on dit de traduire, trahir. Est-ce que améliorer un texte, c'est le trahir?
Ouais, Dani, c'est une très bonne question. Mais je sais absolument pas quoi répondre à une question comme ça. Est-ce que parce que moi, je crois pas que traduire, c'est trahir. Je crois pas ça. Je suis pas du tout dans cette perspective-là de trahison quand on parle de traduction. Pour
ça,
moi...
Ça existait, Hélène, parce que, par exemple, en France, quand on avait traduit les Russes, les premières traductions, mm-hmm. ils ont vraiment converti. Et Dostoïevski n'a rien à voir avec le jardin à la française. Et ils l'ont fait sciemment. C'était l'idée d'en faire un écrivain français. Donc, il a fallu, des années plus tard,
oui,
ils ont dit, OK, Dostoïevski n'écrivait pas mal. Parce qu'ils ont dit ce type écrit, ils ont fait toute la mythologie du type qui était malade un peu, qui écrivait, parce que la France aime beaucoup le genre, si tu es asthmatique, tu as écrit comme Proust, si tu es épileptique, tu as écrit comme Dostoïevski. Mm-hmm. Ils ont dit qu'il n'était pas malade, peut-être que c'était son style, mais ils l'ont arrangé.
Ouais.
C'est peut-être une trahison dans ce sens-là, peut-être, non?
Oui, ben peut-être qu'on avait une autre conception de la traduction avant, surtout en France. Je pense que les Français étaient très... bon, je vais employer un terme sympathique. Mais bon, peut-être qu'ici, étant donné qu'on vit beaucoup dans les deux langues, on a peut-être moins cet esprit colonialiste. Là, on est peut-être plus... En tout cas, moi, je crois pas que traduire, c'est trahir. J'essaie d'être toujours fidèle à la fois à l'auteur que je traduis, tout en étant fidèle à ma langue. Donc, pour moi, c'est... c'est pas une amélioration quand on traduit un livre, c'est, mais on ajoute quelque chose. C'est évident qu'on est là, on est présent. Le traducteur n'est pas absent, il est pas, c'est pas un fantôme, le traducteur, il n'est pas caché derrière l'auteur. L'auteur est présent, mais le traducteur ajoute sa vision, sa personnalité, sa musique, son écriture, sa créativité. Comme quand je parlais de musique, je me dis, est-ce qu'un musicien qui interprète Chopin trahit Chopin? Mais non, on ne sait pas s'il joue la musique comme Chopin la jouait. Il joue avec sa créativité, avec sa personnalité.
Donc, je disais ça aussi parce que des fois, l'écrivain, il fait un petit dialogue, il fait une petite description comme ça, et il n'accorde pas beaucoup d'importance à ça. Et brusquement, le traducteur ou la traductrice bloque là-dessus, passe 3 jours, alors que l'écrivain avait passé 10 minutes sur le truc. C'est une poignée de porte. Et pour une raison que ce soit, dans l'autre langue, ça devient difficile. Mm-hmm. Et oui. Il va l'améliorer, parce qu'il la met tellement de choses comme ça. Ça fait...
Mais là, ça serait pas une traduction. Pour moi, c'est une interprétation. Oui. Bon.
Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, j'espère que vous joindrez à moi pour remercier Hélène Rioux et Johanna d'être venues ce soir.